C'était pas facile de trouver un titre, donc j'ai donné ce titre-là. On pourrait imaginer un autre. Changer, c'est facile si on est rempli de l'esprit. Voilà, ça tourne autour de ce thème du changement. Comment il se produit, etc. Le chrétien naît de nouveau, hein, puisqu'on parle ici dans une église où on pense qu'il faut passer par la nouvelle naissance. C'est pas juste parce qu'on est dans une religion, on appartient à un groupe religieux, qu'on est chrétien. Le chrétien né de nouveau reçoit une vie spirituelle en lui, celle du Saint-Esprit, qui est déposée en lui. C'est la vie éternelle. C'est une vie qui ne s'arrête pas au moment de la mort physique, elle continue jusque dans la vie éternelle. C'est un cadeau qu'on reçoit. Le problème, c'est comment cette vie qu'on reçoit au moment de notre naissance spirituelle va-t-elle se manifester dans la durée? Bon, si on est de l'esprit à 95 ans et on meurt à 96, vous voyez, le problème ne se pose pas. Hein. Mais moi, j'ai connu le Seigneur à 20 ans. Maintenant, j'en ai 73, 74. Et j'ai dû, être face à ces changements. Est-ce que je change? Est-ce que je change dans ma vie présente? Sachant que la vie éternelle, il n'y a pas de problème. La vie éternelle, on n'aura plus ce corps ni cette âme qui est entachée du péché. Donc, ce sera plus facile. Mais le problème se pose aujourd'hui. Dans ma vie personnelle, dans ma vie de famille, dans ma vie d'église, etc. Est-ce que je change? C'est la question. Et changer pourquoi? Vers quoi? Quel but? C'est ressembler à Jésus? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez ressembler à Jésus? Je ne vais pas vous demander est-ce que vous ne voulez pas ressembler à Jésus? Levez la main. Je pense qu'on est tous là pour ressembler à Jésus. Voilà, le message est pour vous et pour moi. Et c'est quelque chose qui est au fur et à mesure. Hein. On se bat Jésus comme ça, parce qu'on a un passé, on a toutes sortes de choses, mais la question n'est pas là de traiter le passé ce matin. Dans Éphésiens 4, verset 12, ce passage nous rappelle que le rôle des ministères dons que Christ envoie, parce qu'il est monté au ciel, il envoie des dons, c'est de perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère. Donc, ce pupitre doit servir à ça. C'est dans cette église locale, comme dans tous les pupitres, toutes les églises locales, de perfectionner les saints jusqu'à ce que nous soyons parvenus, je cite la Bible, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que l'objectif de notre changement, c'est de devenir des hommes et des femmes mûrs. Ça veut dire quoi, mûrs? Ça veut dire que nous ne sommes pas dépendants des circonstances. Vous savez, quand on est jeune, tout ça, on dépend des circonstances. Il y a un tas de choses. Bon. En plus, on n'a pas l'expérience de la vie, donc voilà, on veut étudier tout, et surtout les ados, et je suis content que Michel ait vraiment à cœur les ados, parce que c'est un moment charnière, hein, où voilà, les ados, le début de la jeunesse, ils veulent refaire la vie dans la société dans laquelle ils sont. Moi, je me rappelle mon adolescence, je passais des heures et des heures et des heures et des heures à discuter avec mes copains comment on peut refaire la société. Parce que ça ne nous convenait pas. Parce que la société, elle se sclérose. Il y a des actions de personnes qui sont là depuis longtemps, qui veulent garder les privilèges et tout ça. Donc, voilà. Mais c'est normal qu'à cet âge-là, on cherche à changer la société. Moi, j'avais 20 ans en 68, 1968, où on caillassait, enfin, pas moi, hein, caillassait la police à Paris et tout ça. Et ils voulaient changer la société. Mais ceux qui étaient sur le haut des pavés, qui remplaçaient aujourd'hui, ce sont des gros capitalistes qui maintenant renient ce qu'ils ont dit. Vous voyez, le changement, ça va tout à fait dans ce qu'ils réclamaient, puisqu'eux-mêmes se sont embourgeoisés. Et aujourd'hui, eh bien, ils ne pensent plus du tout à changer la société, ils veulent la dominer. Ça, c'est Jésus qui a dit à ses disciples, il a dit, les grands vous tyrannisent, mais vous, je vous demande d'être au service les uns des autres. Et Jésus a lavé les pieds pour montrer que c'est lui qui était le plus grand serviteur. Alors pour commencer, on va prendre un passage de Galates. Hein. Alors, Oscar l'avait déjà pris, désolé, je reprends ce passage ce matin. Galates, chapitre 5, et on va lire partir du verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est la parole de Dieu. Alors comment... On parle de changement, on parle de fruits, on parle voilà, de marcher par l'esprit. Comment tout ça se passe? Et c'est l'objet de ma prédication ce matin. Alors, très souvent dans la Bible, il y a des métaphores, c'est-à-dire des images qui sont utilisées, des images d'agriculture, des images végétaux. Alors, je crois que j'avais mis la diapo dans un autre sens. Je vais peut-être y aller parce qu'elle devait apparaître ici. Je reviendrai derrière. Les métaphores qui sont très fréquentes, hein, j'en prends quelques-unes. La parole évoque souvent les images comme le royaume de Dieu comparé à un grain de sénévé jeté dans un jardin, il devient un arbre. Vous vous rappelez de ça ? Alors, il y a de nombreuses fois cette image. Un autre, c'est le semeur sorti pour semer, la parole qui produit du fruit, etc. Psaume 1, vous avez, il est comme un arbre hein, planté près d'un courant d'eau, etc. Donc ces métaphores, si vous voulez, c'est des images, hein, comme des paraboles, Jésus a utilisé beaucoup ces paraboles, pour expliquer comment on peut croître, à quoi on doit ressembler. On n'est pas une plante, mais on doit croître comme une plante, et c'est lui le jardinier. Alors je reviens en arrière, parce que, voilà. Donc, on va prendre aujourd'hui cette image, puisque dans le passage des Galates, il est question de fruits, pour illustrer ce changement, comment il peut s'opérer en nous. On va voir la nature du changement. On va voir le modèle du changement, quel est le modèle qu'on doit prendre pour comprendre le changement et quel est le processus. Alors prenons d'abord la nature. Là, c'est une image d'une chrysalide qui devient papillon. Là aussi, c'est une image de changement, hein, là, très radicale, puisque ils n'ont pas la même forme, hein, la chrysalide, c'est une chenille qui devient papillon. Donc, ça, c'est un changement radical. Eh bien, il faut séparer quatre choses. Enfin, il faut comprendre quatre choses. Alors là, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est graduel. Ce changement est graduel. Il est inévitable. Il est interne. Et il est symétrique. Donc, on va voir ces quatre choses concernant le changement. Tout d'abord, il est graduel. Ceux qui sont pressés, ils vont être déçus parce que la croissance du chrétien est graduelle, elle est lente, comme le fruit. Un fruit, il faut attendre à partir du printemps où le fruit se forme jusqu'à la récolte. Et dimanche prochain, on va fêter les récoltes, on apportera les fruits. Je vous apporterai, moi, des fruits formidables qui ont poussé cette année, entre autres des citrouilles, des potimarrons et des grosses betteraves. Enfin, c'est formidable cette année ce que ça a produit. Mais c'est lent. Il a fallu attendre 9 mois jusqu'à ce que ces fruits, on puisse les récolter. Je prends un autre exemple concernant la croissance physique. Si vous prenez un garçon, par exemple, qui fait un athlète, qui fait une course de 100 mètres, bon, il est vraiment dans cette course, et à 16 ans, si vous lui posez la question, est-ce que tu te sens différent d'il y a un an ? 15, 16 ans, il ne sait pas trop. Bon, oui, différent, non, etc. Mais comment vous savez qu'il est différent ? Ben, en regardant l'épreuve qu'il fait. Et au lieu de faire, je dis n'importe quoi, 15 secondes, il va faire 13 secondes. C'est-à-dire, pendant cette année où il a eu une croissance musculaire, athlétique, un coach, etc., il a fait des progrès. Mais il ne le sait que quand il mesure les progrès qu'il a fait. Vous êtes avec moi ? Voilà. Donc notre croissance, bon, à part les crises de croissance, ça arrive, hein, j'exclus la crise de croissance, on peut sentir. Hein, il y a Joy, là, ma petite fille, là, de ce coup, tchou, devenue une asperge. Donc il y a des moments de crise de croissance. Mais en dehors de ça, on ne sent pas la croissance, surtout une fois qu'on est en croissance, après, c'est autre chose. Mais on le sait quand on pose des questions ou quand on est dans une épreuve. Alors, je prends la patience, par exemple. Si vous voulez savoir si vous avez changé en tant que chrétien, il faudrait prendre un ami que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et vous lui posez des questions. Vous dites, est-ce que j'ai changé ? Vous ne le savez pas. Le garçon de 16 ans, il ne sait pas. Il dit, oui, tu vois, tu as fait 2 secondes de plus. Et là, l'année prochaine, peut-être, tu vas atteindre... Ce que tu peux être champion ou rentrer dans l'équipe de France. C'est pareil. Si vous voulez savoir si vous avez changé, c'est pas vous qui pouvez le dire. Donc adressez-vous à un ami qui est bienveillant envers vous et dites, est-ce que j'ai changé ? Voilà, c'est ça le fruit. Vous voyez ? Vous pouvez savoir parfois en disant, il y a 2 ans, j'aurais peut-être pas réagi comme j'ai réagi maintenant dans cette situation. Donc, quelque part, vous avez quand même des repères par rapport à ce que vous vivez. Mais le mieux, c'est quand même quelqu'un d'autre qui est bienveillant, hein, qui n'est pas critique vis-à-vis de vous, mais bienveillant, qui vous dit la vérité, eh bien, qui va dire, tu vois, là, effectivement, je te vois plus pareil. Moi, c'est ce qui m'a amené au Seigneur. Hein. Moi, ce qui m'a amené au Seigneur, c'est que j'avais un ami dont je vous parle, on parlait tout le temps de ces changements, et puis je l'ai perdu de vue pendant quelques années, et quand je l'ai rencontré, j'ai posé quelques jalons, j'étais sûr qu'il n'allait pas le faire, je le connaissais. Et là, il l'a fait, et ça m'a frappé. Et après, quand il m'a dit qu'il a rencontré Jésus, je dis, alors là, ça a touché mon cœur, quoi. Je savais que c'était pas naturel, vous voyez. C'était juste quelques années, mais il a changé complètement. Et là, ce changement m'a parlé en disant Dieu est vrai dans sa personne. Et quand il m'a parlé de Jésus, c'était pas une religion, c'était moi, Jésus. Il a même pas dit il a changé, voilà, il a vécu sa vie avec Jésus. Mais quand il m'a parlé de Jésus, moi ça m'a touché et Jésus m'a parlé. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur après cela. Donc, le changement d'une personne... alors, dans les églises de Pentecôte, dont ma femme est issue, le pasteur disait, à l'époque, hein, c'est plus trop vrai maintenant, quand vous changez, quand vous acceptez Jésus, à l'époque, c'est le réveil, même le chien s'en aperçoit. Et quand vous prenez les changements qui sont opérés au Pays de Galles, même les chevaux ne pouvaient plus obéir aux ouvriers qui descendaient dans la mine. Ils ont dû sortir les chevaux et mettre des nouveaux chevaux. Pourquoi ? Parce qu'avant, ils juraient. Les chevaux, ils marchaient au juron. Et là, comme ils étaient chrétiens, ils utilisaient un autre langage, les chevaux ne comprenaient plus. Et ça, c'est historique. Regardez les réveils, lisez les réveils. Et donc, ils ont sorti les chevaux, mettez de nouveaux chevaux, pour que le langage qui a changé en quelques semaines, eh bien, les mines puissent continuer à travailler. Voyez. Donc, même votre chien doit s'apercevoir de votre changement quand vous convertissez. Après, la progression est plus lente, mais elle doit arriver à maturité. On doit devenir mature, mature en Christ. Donc, la croissance nécessite de la patience. De la patience. Ce n'est pas du jour au lendemain comme ça qu'on change. C'est comme un fruit, il faut du temps. Il faut mesurer ce changement. Et nous, ce matin, on ne parle pas du fruit naturel, on parle du fruit de l'esprit. Oui. C'est la même démarche, c'est la même compréhension, puisque voilà, la Bible prend une image du fruit, mais c'est le fruit de l'esprit. Vous vous rendez compte ? Quand on se convertit, il y a une semence qui vient dans notre cœur, la semence que Jésus, la parole, et ensuite, après, l'Esprit vient en nous. La vie éternelle vient en nous. Une vie que rien ne peut arrêter. C'est beaucoup plus fort que la vie végétale, que la vie qui est dans un fruit, que dans un arbre, dans un végétaux quelconque, vous voyez ? Donc, cette croissance doit et peut se manifester en nous parce qu'elle vient de l'esprit, mais elle est lente, mais elle est inévitable. C'est la bonne nouvelle que je vous apporte ce matin. Elle est inévitable. Si vous restez en Jésus, avec le Saint-Esprit, elle est inévitable. Inévitable comment ? Je prends un exemple que j'aime beaucoup parce que ça parle à tout le monde. Il y a souvent, enfin, ça arrive que dans certains cimetières, vous voyez des tombes brisées. Hein, je ne sais pas si vous en avez vu. Il y a une tombe assez fameuse que tout le monde cite en Italie, qui date de 600 ans, il y a 600 ans. Et c'est une plaque de marbre qui fait des tonnes et des tonnes. C'est une très grande tombe. Et là-dessus, eh bien, il y a carrément un arbre. Maintenant, il y a un arbre, et elle existe encore, cette tombe. C'est-à-dire qu'une dalle de marbre qui fait plusieurs tonnes, eh bien, il y avait un grain dans le sol, un grain d'un arbre, qui a poussé, et maintenant, c'est un arbre qui a cassé la dalle et qui, maintenant, est manifeste. Voyez-vous, la vie végétale, par rapport à la vie minérale, donc inerte, eh bien, elle gagne toujours. C'est elle qui va gagner. Alors, si nous, qui avons le Saint-Esprit en nous, eh bien, ça ne gagne pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On le verra tout à l'heure. Hein. Il faut vraiment venir à Jésus tout de suite. Il y a quelque chose. Et, c'est-à-dire qu'on devient religieux. Quand tu deviens religieux, effectivement, il ne se passe plus rien. Dès qu'on est vivant, par le Saint-Esprit, c'est inévitable qu'on change et que tout ce qui est inerte, tout ce qui est mort, tout ce qui n'a pas de vie, eh bien, ne peut pas tenir devant la vie du Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus, il est ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit. La mort ne pouvait pas le retenir parce que la vie est plus forte que la mort, parce que le Saint-Esprit agit, et c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts par la volonté de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. Nous devons marcher par la foi et nous devons avancer par la foi. Après un temps assez long, eh bien, demandez, si vous voulez vraiment des critères, à vos amis, est-ce que j'ai changé ? Et ça vous permet de savoir où vous en êtes. Si vous manquez d'amour, eh bien, demandez-la. Et vous recevrez cet amour parce que le Saint-Esprit veut nous remplir de son amour. Donc, c'est graduel, c'est inévitable et c'est interne. Alors, il y a deux manières de croître. Deux manières de croître. Il y a une manière de croître de manière mécanique. Hein, voyez, vous empilez vous empilez des Lego, vous empilez des briques, vous empilez, voilà, etc. Voilà. Alors, il y a des églises qui empilent des chaises, bon, des gens viennent, tout ça, voilà. C'est pas ça, la vie. Hein. La vie, c'est pas le nombre, c'est pas la quantité, c'est pas, voilà, quelque chose de mécanique, voyez-vous. La vie, c'est organique. La vie, c'est une semence qui a la puissance qui grandit, hein, et qui devient un arbre. Voilà. Donc il y a deux manières de grandir, mécanique ou organique. Et c'est cette manière organique que nous devons chercher. Alors je vous donne un exemple, et dans lequel je vais aussi me citer. Deux exemples qui sont là. Parmi tous ceux qui nous ont précédés, les témoins, il y a Luther et il y a John Wesley. Tous les deux, ils étaient serviteurs de Dieu avant leur changement, avant leur rencontre avec Jésus. Luther était très engagé dans l'Église catholique. Il prêchait, il était même professeur d'université, enfin d'université en tout cas, il était un scholar, hein, ce qu'on appelle quelqu'un qui à l'université, etc. C'est pour ça d'ailleurs, ses écrits sont grecs, l'hébreu, tout ça, il connaissait. Et il produisait des œuvres qui étaient des fortes, s'occupaient des pauvres, des malheureux. Enfin, voilà, il faisait le travail. Il est allé jusqu'au Vatican, et c'est là qu'il a été choqué par les indulgences. Mais c'est quelqu'un qui était engagé dans la vie religieuse. Voilà. John Wesley, également. C'était un prêtre anglican, qui était engagé, qui est allé aux États-Unis, parce qu'à l'époque, c'était anglais, hein, les colonies. Et il était dans une paroisse, là-bas, il s'occupait des Indiens, il s'occupait... Voilà, il avait des fruits dans son œuvre en tant que prêtre, hein, prêtre anglican, etc. Voilà, donc vous voyez, ces deux personnes qui étaient engagées avec Dieu, qui étaient engagées, qui étaient solides, dans leur foi, c'était pas voilà des minus. Hein. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont rencontré Jésus. Ils ont fait une rencontre avec Jésus, avec la parole, tous les deux avec la parole. Hein. Luther, voilà, c'est les Romains, et John Wesley, c'est les Galates. C'est ce qu'on est en train de, on est dans les Galates. Donc ils sont passés d'une vie religieuse où on empile mécaniquement des choses à une vie spirituelle. Ils sont passés de la chair à l'esprit. Il faut que nous, on passe de la chair à l'esprit pour changer. Dans la chair, on peut grandir mécaniquement, mais pas spirituellement. Dans l'esprit, on change spirituellement. Mécaniquement, c'est Dieu qui s'en occupe, c'est Dieu qui ajoute chaque jour à l'Église des personnes. Wesley a été touché par la parole, Luther par la parole et moi par la parole. Quand cet ami m'a parlé, ou j'ai vu son changement, déjà intérieurement il s'est passé quelque chose, il dit bah, Dieu est réel. La deuxième chose qu'il m'a dit, il m'a parlé de la guerre des six jours, qui avait lieu en juin 1980, je suis perdu dans les années. Voilà, j'étais dans les 90. 67. Et là, il m'a parlé en août 67. Il y avait encore les images de Paris Match. Vous savez, Paris Match, c'est des grands trucs comme ça. Où il y avait tout ce qui s'est passé à la guerre des six jours. Moi, j'avais regardé Paris Match, tout ça. Et lui, il m'a donné l'interprétation de ce qui s'est passé. Parce que Paris Match a montré les photos. Il a dit, mais tu vois, là, ils ont gagné parce qu'ils ont fait la même chose qu'il y a des milliers d'années, où ils ont fait la même chose, et les Arabes sont sortis de leur char, ils ont foutu le camp, ils ne les avaient plus. Et là, il s'est passé quelque chose, il y a un ange qui est venu, qui a arrêté. C'est-à-dire que la guerre des six jours, si vous voulez, c'était le miracle pur, pur, de ce que Dieu a voulu délivrer Israël pour lui redonner son pays. Il m'a raconté ça, et alors mon cœur, il dit, c'est pas possible. Moi, je servais dans l'Église catholique. Même, j'ai commencé à 4 ans, servant de messe. Et à quelques années, vers 7-8 ans, je faisais les messes à 4 heures du matin dans l'hôpital, parce que le prêtre m'avait demandé de venir à 4 heures du matin, pour faire les messes très tôt. Là. Et j'ai servi jusqu'à 20 ans, sauf que les prêtres, les abbés, parce que j'étais engagé comme étudiant, j'étais engagé partout, je faisais pèlerinage et tout, voilà. Mais ils me parlaient de Dieu comme quelqu'un de très lointain, vous voyez. Et moi, j'avais dans ma chambre, voilà, l'univers, tout ça, Dieu de l'univers, c'est formidable, quoi. Voilà, moi j'étais impressionné par ça, parce que c'est ça qu'on m'a raconté. Et lui, d'un seul coup, il me parle d'un Dieu qui agit dans l'histoire. C'est ça que je cherchais, moi. Je dis, mais Dieu, voilà, c'est bien, il y a 2000 ans, il fait des choses, il y a 4000 ans, il a fait les... Mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il fait quelque chose aujourd'hui dans notre monde? Et lui, il me raconte ça. Alors là, mon cœur, je dis, c'est pas possible, là, c'est ce que je cherche, quoi. Je cherche un Dieu qui est présent aujourd'hui, quoi. Voilà. Et bon, ça a duré une journée. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Sachant que mon livre de chevet, c'était l'Évangile. Hein. Tous les jours, j'avais mon Évangile, parce que j'étais très, très pieux hein, dans l'Église catholique. Et puis, il m'a dit, mais écoute, tu pries, tu prends ta Bible, tu verras. J'ai dit, j'ai pas discuté, j'ai dit oui. J'ai pris ma Bible, quand je suis rentré chez moi. Et d'un seul coup, du feu est sorti. Waouh, je lisais, waouh, du feu est sorti. Ça a brûlé. J'avoue, je disais, brûlé, quoi. Et ça, c'est duré des mois et des mois, parce que après, je suis rentré dans l'école d'ingénieurs, puisque j'étais admis hein, comme dans l'école des arts et métiers. Et là, vous savez, voilà, les gars, hein, ça y va. Hein. Ils faisaient de la moto dans les dortoirs. Hein. Ils démontaient les voitures dans les dortoirs. Enfin, bon, c'est les arts et métiers, hein, c'est... c'est vraiment... voilà, on fait tout. Et dans ce brouhaha, je prenais ma Bible et les paroles... feu sortait, et des trucs qui volaient au-dessus de moi, etc., j'entendais rien, j'étais avec le Seigneur. C'est la parole. J'ai vu que Dieu était présent aujourd'hui pour moi. Pour moi. C'est la vie du Saint-Esprit. Comme ça, j'ai commencé mon chemin avec le Seigneur, et puis tout de suite, j'ai dit, mais écoute, Seigneur, là, je ne reste pas dans cette école, moi, je veux te servir. Moi, dans ma tête, il n'y avait qu'une façon de le servir, le mieux, hein, parce qu'on peut servir des francs de monnaie, c'est d'aller dans un monastère. Pour moi, c'était le nec plus ultra. Donc j'ai dit, Seigneur, je vais aller maintenant, je vais dans un monastère et je vais te servir. Et le Seigneur me dit, non. Ah bon? Il m'a parlé. Ben, il m'a dit, non, tu vas me servir tout en étant à ton travail. Waouh! J'ai écrit ça, j'ai encore toutes les notes, hein. Il y a 53 ans. Et du coup, j'ai resté et j'ai servi le Seigneur à l'aérospatial, faire des fusées, passionné, je suis passionné d'aéronautique, d'aviation et tout ça. Le Seigneur m'a appelé au pastorat, au ministère en 90 pour le servir en même temps, dans mon travail et dans l'Église. Mais vous voyez, c'est la révélation de la parole. C'est la puissance de la parole par l'action du Saint-Esprit. Luther, Wesley, pareil. Et là, ça change tout. Parce que, après, vous avez une prédication de puissance, d'onction, qui touche les gens. Wesley, il parlait, Westfield d'ailleurs était avec lui, il parlait en Angleterre, Pays de Galles, à des milliers de personnes, sans micro, sans rien, à l'extérieur. Et les gens, ils entendaient tout. Il n'était même pas au bord d'un lac, comme Jésus qui était au bord d'un lac, on dit, ouais, le lac, etc. Non, là, et tout le monde entendait prêcher, il y a des milliers de conversions. Et c'est l'homme, Wesley, qui a fait le plus d'aller-retour. Je crois que c'est 40 000 km qu'il a fait à cheval, entre le nord et le sud de l'Angleterre, pour prêcher l'Évangile. Voilà. Toute sa vie, il a fait ça. Et son réveil a duré 100 ans. 100 ans. Vous voyez, ça, c'est de la maturité. Ça, c'est du changement qui dure. Et qui impacte. L'Angleterre a été impactée. Les historiens disent aujourd'hui que grâce à ce réveil, ils n'ont pas vécu la révolution sanglante que nous, on a vécu à la même époque, en 1789. Là-bas, c'était le réveil spirituel grâce à des hommes comme Whitfield et Wesley. La puissance organique, pas mécanique. Les gens se convertissaient, ils rentraient dans l'église et étaient des meneurs. Donc, graduel, inévitable. Ensuite, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? Inévitable. interne, merci, et symétrique. Alors le symétrique, il faut un peu s'accrocher, parce que c'est un peu plus dur à comprendre, mais vous allez comprendre, c'est très facile. Symétrique, c'est que le fruit, il y a quelque chose de particulier dans ce passage que nous avons lu, hein, et tous les théologiens se sont posés la question en disant, vous voyez, les théologiens, normalement, le rôle, c'est de scruter la parole et de l'apprendre, parce que c'est parole de Dieu, et de la faire parler, sans interprétation de préjugés, parce que nous, on a des préjugés, donc on lit la parole avec nos préjugés, donc on lui fait dire ce qu'on veut, enfin, selon nos préjugés. Un bon théologien, comme Henri Blocher, je le cite parce que c'est vraiment formidable, il laisse la parole parler. Il doit laisser la parole donner son interprétation, ce que l'auteur a voulu écrire sous l'onction et l'action du Saint-Esprit. Bien voilà, je lis avec vous. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la passion, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est le fruit. Et ce n'est pas une erreur, parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Donc c'est le fruit, et c'est tout ça le fruit. Ce n'est pas le fruit, c'est l'amour. Le fruit, c'est la joie. C'est l'ensemble. Ça s'appelle, théologien, ça s'appelle ça une concaténation. Concaténer, si vous prenez le dictionnaire, c'est enchaîner une liste, ou enchaîner une chaîne de caractères. Vous voyez, par exemple, vous écrivez amour, c'est A-M-O-U-R, c'est pas A, c'est pas M, c'est l'ensemble, c'est concaténer, c'est ensemble. Vous voyez, c'est comme une chaîne. Vous voyez, l'amour, les maillons, c'est le fruit. Et là, c'est la conséquence de cet enseignement, c'est que quand vous avez un fruit de l'esprit, c'est-à-dire quand l'esprit, vous le laissez agir en vous, alors c'est la condition, c'est de le laisser agir en vous. Si vous êtes dans la chair, vous n'aurez pas ce fruit-là. Vous aurez peut-être l'amour, vous aurez peut-être la joie, vous aurez peut-être la paix, séparément. Mais ça, c'est la chair. Vous pouvez très bien être dans l'amour, voilà, ou dans un semblant d'amour. Ce n'est pas l'amour du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit agit en vous, il fait l'ensemble de tout ça en même temps. Voyez, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. C'est-à-dire vous grandissez en même temps dans tous ces éléments et pas séparément. Et c'est là que vous pouvez voir si vous êtes animé par le Saint-Esprit, si ce fruit-là grandit en vous, c'est-à-dire l'ensemble de tout ça, ou si c'est un seul fruit. C'est la chair. La chair peut produire des choses. Hein. Elle peut produire la paix. Mais c'est une paix qui est artificielle. La paix du Saint-Esprit, elle va avec l'amour, avec tous les autres. C'est là le secret de ce passage sur lequel je voulais insister. Voyez-vous, si la chaîne est rompue, par exemple, vous pouvez très bien développer dans la vie religieuse. Bon, il y a des gens qui sont gentils, etc. Même mes enfants souvent me disent « Ah oui, mais papa, les gens dans le monde sont plus gentils que dans l'église. » Oui, c'est sûr, parce que vous pouvez très bien avoir des gens très gentils. Je veux dire, il y a des gens qui sont naturellement aimables. Bon, voilà. Et pour toutes sortes de raisons, hein, qui sont comme ça. Mais ça, c'est pas la vie de l'esprit. Hein, pas la vie de l'esprit. C'est dans la chair. C'est pas mauvais hein, d'être gentil, hein. Au contraire, c'est plus agréable que d'être vilain. Mais c'est pas ça. La Bible dit que toutes ces choses sont le fruit qui doit se dégager. Paul dit d'ailleurs, j'ai beaucoup de passages ce matin, mais je n'ai pas trop le temps de tout développer, ce n'est pas une étude biblique ce matin, mais Paul dit, vous pouvez donner aux pauvres, faire du bien, évangéliser. Et n'avoir rien si vous n'avez pas l'amour, la joie, la patience, etc. Vous pouvez tout faire, c'était mon cas en tant que religieux, moi je faisais des pèlerinages, je faisais un tas de choses, etc. Mais j'avais rien, j'avais pas la vie de l'esprit. Par contre, je servais Dieu. Hein, Paul ne dit pas que vous n'êtes pas chrétien. Vous pouvez très bien avoir reçu le Saint-Esprit et cette naissance, sauf que vous ne l'entretenez pas. C'est ça le problème. C'est que vous pouvez très bien naître de nouveau et rester, ne pas porter ce fruit-là, c'est-à-dire l'ensemble de tout ça qui augmente et qui prend de l'ampleur. Voilà, vous serez certainement sauvés, comme au travers du feu. Après, c'est le jugement de Dieu qui décide. Rappelez-vous ce passage qui dit, quand il passe devant le trône de Dieu, il a dit, oui, tu as fait des miracles en mon nom. Oui, tu as fait ça en mon nom, etc. Mais arrière de moi, je ne vous connais pas. Vous pouvez faire des choses. Pourquoi ? Parce que prêcher l'évangile, quelqu'un peut le faire sans être né de nouveau. Il suffit d'être un bon orateur. Il y a même des gens qui peuvent se convertir lorsque vous faites un appel. Le problème, c'est quoi ? Comment il faut l'expliquer, ça ? Ben, c'est leur esprit à eux, qui est en eux, qui les amène à recevoir la guérison, etc. Mais pas celui qui prêche. Si vous prêchez, je parle à un prédicateur, et que vous ne changez pas, ben, vous n'êtes pas dans l'esprit, c'est tout. C'est chacun son changement qui est important, voyez. Chacun est amené à se responsabiliser lui. Est-ce que moi je change? Bon, que je prêche, que je sois un bon orateur, tout ça, c'est bien. Hein, Dieu peut m'utiliser, Dieu peut utiliser mes dons. Il peut, au travers de moi, utiliser les dons. Voilà. Donc il fait des choses formidables. Mais ce n'est pas ça qui va faire de moi un chrétien qui laisse l'esprit en moi agir pour que moi, je change aussi et que les gens puissent voir le changement en moi. C'est ça. Ça s'appelle des grâces. Tout ce que Galates 22 dit, l'amour, la joie, la paix, la patience, on n'appelle pas ça des caractéristiques. Parce que caractéristique, ça veut dire, voilà, c'est grand, c'est beau, c'est à telle dimension, etc. Non, c'est des grâces. Tout est grâce du Saint-Esprit. La grâce de l'amour, la grâce de la joie, la grâce de la paix, etc. Toutes ces grâces fonctionnent ensemble. Parce que c'est un seul esprit. Toutes ces grâces que le Saint-Esprit nous donne, et donne à chacun, de ceux qui sont nés de nouveau, qui veulent laisser l'esprit, eh bien, sont données ensemble. Sinon, c'est la chair. La chair peut produire des choses incroyables. Sauf qu'à un moment donné, ça ne marche plus, ça coince. C'est comme les grains de sable. Voyez ? Par exemple, la paix fonctionne avec l'humilité. Vous pouvez établir des paix. Il y a des faiseurs de paix. Hein ? Mais si ce n'est pas dans l'humilité, c'est dans l'orgueil, c'est une paix qui ne va pas durer, qui ne va pas marcher. Voyez ? Regardez, Jacques 4, 13 dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons, nous gagnerons. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. » Voyez-vous, la paix va avec l'humilité. L'humilité, un chrétien né de nouveau qui marche dans l'esprit, il va dire, bah écoute, je suis dans une difficulté, là on parlait, c'est Alexis qui a dit, voilà, la difficulté, vous mettez devant Jésus, la difficulté est là, est-ce que je compte sur Jésus pour cette difficulté? Ou est-ce que je dis, bon, je vais y arriver, machin, etc. Et vous voyez, par exemple, il y en a qui disent, oui, mais moi, j'ai une bonne vie, parce que, voilà, je travaille dur, j'ai un bon boulot, je me suis bien marié, etc. Voilà, bon, ça c'est de l'orgueil, quoi. Mais si vous dites, je compte sur le Seigneur, je m'attends au Seigneur, vous êtes dans l'humilité, et cette paix-là, c'est la paix du Saint-Esprit. C'est une paix qui va parler aux autres. Parce que tout le monde n'a peut-être pas la chance que vous avez, hein, de la vie. Vous êtes peut-être nés, ceux qui vivent dans un monde aristocratique, ben, ils ont une chance au départ, etc. Ouais. Mais tout le monde est au même niveau dans l'humilité et la foi, qui produit la paix, qui va dans la paix que le Saint-Esprit donne. La paix est une définition qui m'a interpellé, j'ai encore un peu de mal à tous le comprendre, mais être rempli de foi, on peut traduire par loyauté et courage. Loyauté et courage. C'est intéressant parce que, vous voyez, c'est concaténé, c'est deux en même temps. Parce que quelqu'un qui veut être un faiseur de paix et tout ça, voilà, et il peut être couard, il peut, voilà, il peut ne pas être prêt à affronter les difficultés, les dangers, etc. Il faut être courageux dans la foi. Faut être courageux. Parce que si on sait que le Saint-Esprit et que Jésus va changer les choses, peu importe la difficulté, j'y vais. Et voilà, courageux. On a l'exemple de Pierre. Hein. Pierre, ah, tu marches, il a marché sur l'eau, il a tout fait, tout ça. Parce que voilà, Seigneur, tu y vas, quoi. Bon, après, il a paniqué. Il faut du courage. Il faut du courage dans la foi. Hein. Et souvent on dit, ouais, mais c'est fait pour les femmes, la foi, enfin, en France, hein, ceux qui sont cléricaux, enfin, ceux qui sont anticléricaux, c'est fait pour les femmes, etc. Non. Je peux vous dire que si vous voulez servir le Seigneur, il faut du courage. Hein. Il faut du courage. Hein. Sinon, vous pouvez être loyal, mais lâche. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. La lâcheté n'est pas un fruit de l'esprit. C'est le courage. Parce que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre courage, ah, je vais y arriver, non. Mais le Seigneur va m'aider pour faire cette tâche difficile et j'avance dans la sérénité. Toutes les grâces du fruit sont interdépendantes. Joie et contrôle de soi. Là aussi, le contrôle de soi, si vous voulez, si ça ne va pas avec la joie, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Parce que vous pouvez vous contrôler, 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 puis ça fait la cocotte minute, puis paf, ça va exploser. Hein? Vous connaissez ça? Mais si vous êtes dans la joie, alors ce qui est formidable, c'est C.S. Lewis qui s'est converti par la joie. Il dit, le ciel est fait de joie. Et ça, c'est vrai que c'est avec l'amour, la joie, c'est la joie du Seigneur, la joie est notre force, etc. Quelqu'un qui est dans la joie et qui a contrôle de soi, c'est fantastique, c'est vraiment un fruit de l'esprit. Mais quelqu'un qui a le contrôle de soi, parce qu'on peut travailler le contrôle de soi, maintenant il y a les coachs, il y a les machins, enfin, qui vous aident à rentrer dans votre potentiel, etc., ils vous aident à vous contrôler, etc., mais il n'y a pas la joie. La joie pure, la joie du ciel, la joie du Saint-Esprit, la joie de Jésus, eh bien, le contrôle de soi devient manipulation, devient contrôle des autres, devient toutes ces choses que tout le monde, on a en horreur de ça, c'est la chair. Mais la joie pure, cristalline, que Jésus avait et qu'il veut nous donner, eh bien, ça va avec le contrôle de soi. Vous êtes gentil, mais sans contrôle de soi, parce que vous n'avez aucune discipline. Et vous donnez raison à tout le monde. C'est facile de donner raison à tout le monde. C'est une façon d'être, mais il faut que ce soit la joie et la paix. Voyez-vous, à chaque fois, c'est ensemble, c'est interconnecté. Ces grâces sont interconnectées si ça vient du Saint-Esprit. Alors, quelques caractéristiques du fruit qui vont ensemble, ils sont concaténés. L'intégrité, là, j'ai pas le temps, je vois que j'ai déjà débordé mon temps, donc je vais refaire rapide, mais je pourrais éventuellement reprendre ça. Il y a beaucoup de choses à développer. Intégrité, sincérité, tout ça, c'est parti. L'intégrité, c'est quelqu'un qui est le même dans l'Église, dans sa famille, dans son couple, dans la société, au travail, c'est ça. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut produire, c'est tout. Alors, quel est le modèle du changement? Or, à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Je dis donc, je reprends le verset des Galates que j'ai lu au début, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voyez-vous, c'est fait pour, c'est-à-dire que la chair et l'esprit ne peuvent pas marcher ensemble. C'est l'un ou l'autre. On n'a pas le choix. Si on veut faire des fruits ou développer des fruits dans la chair, ben ça va se voir, ça va produire, ça va être catastrophique. Vous voyez? Alors je fais très vite. C'est juste un modèle. Je propose ce modèle-là, qui est de la chenille au papillon. La chenille, c'est la chair, le naturel, les efforts, le devoir, c'est discordant, c'est pas joli, machin, etc. Crucifier la chair, des choses. Alors, quand on dit crucifier, c'est pas forcément des mauvaises choses, vous voyez, qu'il faut se crucifier. Ah oui, Seigneur, je crucifie le fait que, voilà, je suis attaché à la pornographie, bien sûr, ça c'est évident. Bon. Mais c'est crucifier les bonnes choses. Les choses que vous avez poussées au maximum, que vous aimez le plus que Jésus. C'est ça qu'il faut crucifier. Vous. C'est des idoles. C'est des idoles. C'est ça, crucifier la chair, surtout. Et laisser l'esprit diriger votre conduite. Et là, vous êtes dans ce côté harmonieux, ce côté qui va aider les gens à s'attacher. On parle de cette harmonie qui attire parce que c'est le fruit de l'esprit. C'est du surnaturel, ce sont des grâces, ce sont la joie, c'est l'harmonie. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence et regardez à Jésus pour le connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Alors, quel est le secret de ce changement ? Eh bien, soupirez après Jésus. Soupirez. L'esprit. Alors, le problème, c'est que l'esprit et la chair soupirent tous les deux. Ils soupirent, sauf qu'ils soupirent à des choses opposées. Ils soupirent tous les deux, sauf qu'il faut soupirer à Jésus et soupirer à l'esprit qui a été placé en vous. C'est ça, le secret. Soupirez après Jésus. Galates 5, 17 dit « L'esprit est désir contraire, ceux de la chair. » Et Romains 8, 22 dit « Or nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. De même, l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas comment il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs et des mots qui ne peuvent s'exprimer. Et je terminerai par cette image de l'époux et de l'épouse. Nous sommes l'épouse, Jésus est l'époux, et l'Esprit est, en anglais on dit le best man, le garçon d'honneur. Et le garçon d'honneur, il doit dire à l'épouse, regarde l'époux. Regarde comme il est beau. Regarde ce qui t'attend. Regarde les noces, voyez-vous. Et il nous aide à soupirer après ce moment. Nous attendons les noces de l'agneau. Il y en a ici qui attendent les noces de l'agneau. Moi, je les attends. Amen, amen. Il y en a au moins qui aspire, mais je sais que tous vous aspirez. Eh bien, écoutez le best man, écoutez le garçon d'honneur qui vous dit, ne regarde pas à la chair, regarde à l'esprit. Tu as un choix. Mais choisis l'esprit, choisis de marcher par l'esprit, choisis de laisser, de te laisser conduire par l'esprit. Laisse toutes ces choses-là, partisane, machin, etc. Et quand tu vas regarder Jésus, eh bien, l'amour de Jésus va revenir et va te donner de pour te produire du fruit. Amen. Quand on aime, tout est facile, y compris changer pour ressembler plus à Jésus.